Toujours à l'antenne de CKRL 89.1, Raymond Poirier avec vous ce matin. Et on se lance maintenant dans le dossier d'été de ce mercredi. On poursuit donc cette formule. Et on va s'intéresser aujourd'hui à la question, à une question dont on a beaucoup parlé au fil des mois, au fil des années, de cette question donc du droit des femmes, de l'égalité entre hommes et femmes, de l'évolution de ce droit, de sa progression. Alors qu'en est-il actuellement également, où en est notre société québécoise? Alors on jette un coup d'œil détaillé à cette question. Et pour nous guider à travers tout ça, nous sommes en compagnie de Louise Langevin, qui est avocate, qui est professeure de droit à l'Université Laval et qui est titulaire de la chaire d'études Claire Bonenfant sur la condition féminine. Bonjour.
Bonjour, M. Poirier.
Alors, j'aimerais qu'on commence peut-être par une définition, justement. On parle beaucoup de l'égalité homme-femme, mais au niveau légal, par exemple, qu'est-ce que c'est?
C'est une très bonne question. La Cour suprême du Canada tente de définir le concept d'égalité depuis plusieurs décennies. Elle n'y est pas arrivée encore parce que ce concept est multiforme, à géométrie variable. Ça dépend de son point de vue. Je peux vous dire qu'en ce moment, l'égalité, ça veut dire le respect de la dignité. Ça veut dire pas nécessairement traiter tout le monde de la même façon, mais ça veut dire permettre le respect de la dignité de la personne humaine, souvent par des traitements identiques ou des traitements différents. Donc, l'égalité, c'est qu'une personne, en raison de ses caractéristiques fondamentales, le sexe, l'orientation sexuelle, l'ethnie, la langue, qu'une personne ne soit pas traitée désavantageusement en raison de ces caractéristiques-là, parce que de la traiter de cette façon-là, ça perpétue les stéréotypes à son égard. Et donc, ça viole son droit à l'égalité. Il faut pas que les personnes soient victimes de discrimination parce que ça viole leur droit à l'égalité. Ça veut donc dire que cette approche de l'égalité, qu'on appelle l'égalité réelle, l'égalité de substance, commande très souvent des traitements différents pour permettre d'atteindre cette égalité réelle. Peut-être que je peux, pour illustrer mon point de vue, vous donner un exemple. Une course. On imagine que la vie est une course. Et donc, vous avez des gens qui sont placés au fil de départ, à la ligne de départ. Pour certaines personnes, le fait de placer tout le monde à la ligne de départ, c'est ce qu'on appelle l'égalité des chances. On donne une petite chance à tout le monde et tout le monde part en même temps. Et donc, là, la course part. Mais pendant cette course-là, il y a des personnes qui courent avec des poids supplémentaires. Il y a des personnes qui sont moins habiles physiquement. Il y a même des personnes qui ont une seule jambe, qui sont handicapées. Et il y en a d'autres qui sont jeunes, pleins de force, pleins de vie, et qui vont arriver rapidement et facilement à la ligne d'arrivée. Mais il y en a beaucoup qui arriveront jamais. Donc, l'égalité de résultat ou l'égalité réelle, l'égalité de substance, c'est de faire en sorte que tout le monde arrive à la ligne d'arrivée. Et ça veut donc dire aider ceux et celles qui courent avec des poids ou qui courent moins vite. On peut penser aux personnes handicapées, aux personnes qui prennent soin des personnes âgées, des enfants, des malades dans notre société, les femmes qui doivent courir avec des poids et donc qui peut-être n'arriveront jamais à la ligne d'arrivée. Donc, l'égalité de résultat, l'égalité réelle, et c'est l'approche que la Cour suprême du Canada a adoptée, c'est de faire en sorte que tout le monde soit, oui, placé sur la ligne de départ, mais que tout le monde arrive à la ligne d'arrivée. Et ça, c'est facile à dire, mais c'est pas facile à mettre en œuvre.
Et il faut dire, en fait, c'est cette égalité-là, justement, en substance, comme vous le dites, Louise Angevin, c'est un choix collectif que le Canada, que le Québec s'est donné via, ben en fait, ce droit-là est dans des chartes, les chartes des droits et libertés, chartes canadiennes et québécoises notamment, et dans plusieurs documents légaux, lois et autres.
Oui, oui. L'approche que la Cour canadienne, que la Cour suprême du Canada a adoptée, c'est aussi l'approche que plusieurs autres tribunaux internationaux dans d'autres pays et dans les documents internationaux, c'est aussi l'approche qu'on a adoptée. Parce qu'on sait très bien que de traiter... Aristote disait qu'on devait traiter des personnes qui sont dans des situations identiques, les traiter de la même façon. Mais l'idée du traitement identique mène à des inégalités. Et cette idée de traiter tout le monde de la même façon, ça produit pas de l'égalité réelle parce que on vient au monde plus ou moins favorisé, plus ou moins chanceux, et de traiter tout le monde de la même façon, ça nous avantage pas du tout. On peut donner l'exemple de l'apartheid à l'époque en Afrique du Sud. Ben, tous les Noirs étaient traités de la même façon. Mais ça, c'était pas une conception de l'égalité, pas du tout. Donc, cette idée de l'égalité formelle, c'est-à-dire traiter tout le monde de la même façon, puis si vous avez des enfants, vous savez très bien que les enfants veulent avoir le même nombre de bonbons que le frère ou la sœur, qui veulent être traités de la même façon. Cette conception très primaire de l'égalité ne mène pas à l'égalité, mène à des inégalités.
Oui, donc en fait, est-ce qu'on peut, en parallèle, il y a la question de l'équité aussi, qui, j'imagine, on tombe dans un autre...
Ouais, l'équité, en droit, on connaît pas ce concept-là. Les juristes ne travaillent pas avec la question de l'équité parce que on a défini le mot égalité et que c'est le mot égalité qui apparaît dans les documents internationaux, dans les lois et dans les chartes. Donc, l'équité... je pourrais pas vous définir ce terme, mais ça appartient peut-être plus au domaine de la philosophie. Donc, évidemment, il y a l'équité en emploi, l'équité salariale en emploi, mais sur le plan juridique, égalité et équité, je pourrais pas vous faire la différence entre les deux.
Et si on regarde un peu la situation actuellement autour de l'égalité au Québec, au Canada, où en est-on? Est-ce qu'on a l'impression d'avoir un gros bout de chemin, de l'avoir atteint, cette égalité-là? Ou au contraire, on se dit, ben, on n'est peut-être pas aussi loin qu'on pourrait s'imaginer l'être?
Je peux vous rappeler, l'année passée, en juin 2008, il y a eu une modification à la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Une modification qui, dans le préambule, où on a ajouté l'égalité entre les hommes et les femmes comme valeur fondamentale de la société québécoise. Vous vous souvenez de la suite des débats avec la commission Bouchard-Taylor où on parlait des valeurs fondamentales de la société québécoise, la démocratie, le fait francophone, la laïcité et l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc, la Charte du Québec a été modifiée pour préciser clairement l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc, dans le préambule, c'est une valeur fondamentale. Vous l'avez dit vous-même, la charte canadienne reconnaît l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc, le Québec est à l'avant-garde sur ce plan au Canada. Et le Canada est vu sur le plan international comme un chef de file en matière d'égalité entre les hommes et les femmes. Et évidemment, on sert de modèle pour plusieurs pays. Cela dit... Ça ne veut pas dire que la situation est parfaite au Canada. On n'a qu'à regarder les pays nordiques, le Danemark, la Suède, la Finlande, qui sont en avance sur nous. Je vous rappellerai que au Canada, j'inclus le Québec, il y a toujours un écart salarial de plus ou moins 29-30% entre les hommes et les femmes. Et puis un écart salarial qu'on s'explique mal. Je vous rappelle aussi que la pauvreté au Canada a une image féminine. Les femmes âgées, les femmes du quatrième âge, celles qui vivent trop longtemps, entre guillemets, et les immigrantes. Être femme immigrante au Canada, c'est être pauvre et encore plus pauvre qu'un homme immigrant. Je rappelle aussi la violence faite aux femmes, cette violence qui n'est pas une violence publique, quoi qu'elle existe dans la sphère publique, mais c'est une violence qui est privée, une violence qui est dans la famille, donc la violence faite aux femmes au Canada. Et je vous rappelle aussi tout le travail invisible des femmes dans la sphère privée, celles qu'on appelle les aidants naturels et qu'on devrait appeler les aidantes naturelles, avec le désengagement de l'État. Ce sont les femmes qui s'occupent des enfants, des personnes âgées et des malades. Donc, nous avons accompli beaucoup de chemin, mais il reste beaucoup de travail à faire. Spécialement à ce moment-ci, où on est dans un courant très conservateur, Et avec le Parti conservateur au pouvoir à Ottawa, avec une influence de la droite, une influence des mouvements religieux qui nous vient des États-Unis, il faut être très vigilante. Je vous rappelle tout le débat sur la recriminalisation de l'avortement. On ne l'a pas inventé, ça. C'est vrai, ça fait partie du programme politique du Parti conservateur à Ottawa. Et vous vous souviendrez des débats, des batailles, des combats que les groupes de femmes au Canada ont dû livrer pour éviter la recriminalisation de l'avortement au Canada, là. Donc, en ce moment, on n'avance pas. Je ne crois pas qu'on fasse du surplace. Je pense qu'on recule en matière de conditions féminines et c'est pourquoi les groupes de femmes et les femmes doivent être encore plus vigilantes voir et comprendre ce qui se passe sur la scène politique.
Et en même temps, j'ai l'impression quand on parle aussi de revendications liées à la cause des femmes, qu'on met souvent en parallèle le rôle des hommes, l'image de l'homme également, donc conditions masculines versus conditions féminines. Est-ce qu'il y a un danger un peu dans cette rhétorique d'opposition qui est mise de l'avant chez certains, alors que j'imagine qu'on ne devrait pas voir nécessairement les revendications des uns et des autres, les réalités des uns et des autres en opposition, mais plutôt en complémentarité, logiquement?
Oui, vous avez tout à fait raison. On peut voir les luttes féministes et féminines en opposition aux hommes. On pourrait le percevoir comme ça, et certains groupes d'hommes le perçoivent comme ça. Parce que les luttes féministes et féminines ont fait en sorte que les hommes ont dû se redéfinir. Et donc, pour certains hommes, c'est très menaçant de remettre en question une société patriarcale et hétérosexuelle. C'est très menaçant des hommes. Cependant, les revendications des femmes ne sont pas contre les hommes. Il faut se rappeler que lorsque la condition des femmes s'améliore, celle des enfants s'améliore et celle des hommes s'améliore. On ne parle plus dans notre société de congé de maternité. On parle de congé de parentalité parce que des pères et des mères peuvent prendre des congés de parentalité et s'occuper de leurs jeunes enfants. On pense aux programmes gouvernementaux, aux congés de parentalité qui sont de plus en plus intéressants. Ils sont pas parfaits, mais ils sont de plus en plus intéressants. Donc, lorsque la condition des femmes s'améliore, c'est la condition de toute la société qui s'améliore. Les femmes représentent 51% de la société, donc on ne peut pas se passer de leur main-d'œuvre. Il faut donc pas voir les revendications des femmes à l'encontre des hommes. Certains peuvent le voir comme ça, mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est certes l'égalité entre les hommes et les femmes, mais c'est surtout une meilleure qualité de vie pour tous les membres de la société.
Et vous amenez un peu sur le terrain, d'ailleurs, de la question de la redéfinition, parce que j'ai l'impression que depuis, si on regarde le Québec d'aujourd'hui versus le Québec des années 40, 50, c'est un Québec qui s'est réinventé, c'est une société qui s'est réinventée, qui se réinvente aussi constamment, du moins selon ce qu'on en voit. Si on regarde, par exemple, au niveau de la sphère familiale, l'univers familial, l'univers religieux aussi, j'imagine qu'il y a une redéfinition dans tout ça, des rôles, des statuts. Quels sont un peu les impacts des avancées du droit des femmes sur ces sphères-là?
La famille est le lieu où on transmet les valeurs, où on transmet la culture et où on transmet les stéréotypes aussi. Et les femmes sont vues comme les gardiennes de la culture, de la religion, et les femmes sont, de manière traditionnelle, vues comme les reines du foyer. Donc, c'est vraiment au sein de la famille que l'on doit redéfinir les rôles des femmes et les rôles des hommes et éviter que les stéréotypes se reproduisent. Donc, dans ce sens, dans le sein de la sphère privée, on a fait beaucoup de progrès, je pense, à la définition de la famille. La famille a été redéfinie. Cette famille traditionnelle avec des parents mariés à l'église, des enfants, ce n'est plus celle-là qui est devant nous. La famille, elle est multiforme, elle est redéfinie avec des conjoints de sexe différents, des conjoints de même sexe, avec des familles monoparentales. avec des familles reconstituées. Donc, cette famille, elle est très diversifiée et elle répond aux besoins de ses différents membres et elle est aussi acceptée. Il faut savoir aussi que c'est souvent par nos origines familiales qu'on est victime de discrimination. Et donc, il reste beaucoup de travail à faire dans la famille parce que c'est dans la famille qu'on définit les rôles des pères, des mères et des enfants. Et dans ce sens, le gouvernement québécois a beaucoup fait, je pense, aux garderies à montant réduit là, qui sont maintenant à 7 $ et qui font l'envie du Canada anglais. Ces garderies de qualité ont permis à un très grand nombre de familles d'avoir accès à des soins de qualité en garderie. Et donc, ça, c'est à l'avantage des pères, des mères et des enfants. Et ça explique peut-être au Québec l'arrivée du troisième enfant dans la famille, le fait qu'on ait ces garderies de qualité. Et ça explique certainement qu'au Québec, on a le plus grand nombre de mères de jeunes enfants sur le marché du travail. Et ça, c'est important, l'indépendance économique des femmes et des mères, parce qu'il n'y a pas d'égalité qui s'acquiert sans indépendance économique.
Et Louise Langevin, j'aurais envie de vous laisser le mot de la fin. Il nous reste à peu près une minute. De tout ça, qu'est-ce que vous aimeriez que les gens gardent peut-être en tête quand on parle d'égalité homme-femme, quand on soulève ces questions-là?
L'égalité, qu'on parle d'égalité entre les hommes ou les femmes ou d'égalité par rapport à l'ethnie, l'origine nationale, la langue, l'égalité, c'est le respect de la dignité. C'est ça, l'égalité. Et l'égalité, ce n'est pas tout le monde traité de la même façon. L'égalité, c'est souvent un traitement différent pour aider les personnes à arriver à la ligne d'arrivée dans la course de la vie. Donc, l'égalité, c'est la reconnaissance de la dignité humaine.
Louise Langevin, professeure à l'Université Laval, titulaire de la chaire d'études de Claire Bonenfant sur la condition des femmes. Merci.
Ça m'a fait plaisir.